Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard.
Bientôt, ce sera le 1er juillet, et le 1er juillet, on le sait, c'est souvent synonyme de déménagement. Mais quand on déménage, encore faut-il avoir un endroit où aller. J'ai avec moi Mme Pascale Dussault, qui est directrice générale du RAM, le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. Bonjour Mme Dussault, comment allez-vous?
Je vais très bien, merci, vous-même.
Ça va bien, merci. Oui, 1er juillet, il faut trouver un endroit à aller. Et le logement est une problématique sérieuse pour les personnes qui vivent avec un handicap visuel. Et vous avez fait récemment une étude là-dessus, puis ça va être dévoilé pas plus tard que demain.
Pas plus tard que demain, il y a un webinaire qui s'appelle « Le mal logement des personnes ayant un handicap visuel à Montréal ». Oui, on dit que la crise du logement, si c'est compliqué pour les gens qui n'ont pas de handicap, c'est un problème à long terme pour les personnes qui vivent avec un handicap visuel.
Est-ce que vous pouvez nous donner un peu un scoop de qu'est-ce qu'on va découvrir dans cette recherche? Des choses que l'on sait, on sait que ça va pas bien. Alors ça, c'est pas un scoop. Mais est-ce qu'il y a des...
Non, on sait que ça va pas bien, mais faut faire une précision quand même que quand le RAM a demandé des fonds pour effectuer cette recherche-là, pour faire le portrait de l'habitation des personnes handicapées visuelles, on n'était pas vraiment en crise du logement à Montréal. Mm-hmm. Maintenant, actuellement, on sait qu'on est en crise du logement à Montréal.
D'accord.
Il manque de logements, que les prix ne sont plus abordables et on est encore plus inquiet pour les personnes qu'on représente. Quand on sait que 66 % des personnes qu'on représente vivent seules et sous le seuil de la pauvreté, et que plus de 62 % attribuent plus de 30 % pour payer leur logement.
De son revenu, oui.
On peut comprendre qu'il ne reste pas grand-chose à la fin du mois.
Une fois qu'on a payé le premier du mois, rendu le 2 ou le 3, là, les 27 prochains jours vont être longs.
Oui, absolument. Dans notre recherche, ce qu'on voulait aussi, c'est de voir si les gens avaient des logements ou des lieux de résidence qui répondaient à leurs besoins en accessibilité, par exemple.
D'accord.
Ça aussi, on sait que malheureusement, non. Pourquoi? Parce que c'est trop dispendieux, justement.
Et ça demande souvent, des choses simples, mais qui est parfois difficile d'obtenir de la personne qui gère ou qui possède l'édifice où on habite. Mais il y a des problèmes d'insalubrité aussi que vous avez constatés. Ça, c'est encore plus grave parce que là, il y a personne qui veut vivre là-dedans.
Il n'y a personne qui veut vivre là-dedans, mais ce qu'on a remarqué aussi, c'est que souvent, les personnes, parce qu'elles sont aveugles ou malvoyantes, ne savent pas qu'il y a des problèmes de moisissure.
Oui, mais ils peuvent pas constater l'état de délabrement des lieux jusqu'à ce que le pied passe au travers du plancher, là, parfois, ou qu'un morceau de plafond nous tombe sur le crâne. On vous a donné le mandat de faire cette étude. C'est parce qu'il y a un désir de solution?
On espère avoir cette solution. Mm-hmm. C'est sûr que nous, on va se servir de ces résultats pour nos revendications futures. Ne serait-ce que d'essayer d'avoir plus de logements sociaux. On travaille beaucoup aussi avec le regroupement des aveugles et handicapés du Québec pour faire augmenter un peu et avoir un revenu plus décent pour les personnes qu'on représente. Et ne serait-ce que faire reconnaître aussi que l'accessibilité pour une personne aveugle, c'est souvent aussi être à proximité des commerces et des moyens de transport.
Oui.
Mais plus on s'approche des moyens de transport et des commerces, plus les appartements ou les lieux de résidence sont plus dispendieux.
Oui, c'est sûr, il y a une prime au fait de vivre à 5 minutes de marche, par exemple, d'une station de métro ou d'un terminus d'autobus qui va nous permettre de se déplacer. Il y a des efforts qui sont faits, par exemple, à la Fondation des aveugles du Québec, où il y a des logements de type sociaux qui sont construits grâce à des programmes qui existent, mais la demande totale de logements pour les personnes en situation de handicap est beaucoup plus grande que ça.
Oui, absolument.
Ce que je veux dire par là, c'est que c'est la Fondation des aveugles du Québec, elle seule n'arrivera pas à régler le problème malgré toute sa bonne volonté. Ça doit venir d'une volonté politique. Est-ce que vous avez un dialogue avec des instances ou vous avez l'impression que vous parlez un peu dans le désert?
On parle un peu dans le désert, comme tout le monde parle dans le désert lorsqu'on fait des revendications. Et c'est pour ça qu'il faut faire des projets de recherche pour être capable d'étayer ce qu'on dit. Ça fait longtemps qu'on sait que les personnes handicapées visuelles vivent sous le seuil de la pauvreté et sont isolées et qu'ils devraient avoir plus de logements sociaux plus accessibles à leurs besoins. Mais là, avec ces chiffres qu'on va dévoiler demain, ça devrait nous aider, du moins pour travailler avec les offices municipales aussi. La Fondation des aveugles a des logements, mais vous avez raison, ils ne répondront pas à tous les besoins.
Exact.
Et ce n'est pas, j'imagine que ce n'est pas qu'à Montréal. Là, notre étude reflète Montréal. Je suis à peu près certaine que dans d'autres régions du Québec, c'est le même problème.
Oui, parce que à la grandeur du RAC, qui couvre le reste, toute la province, il doit y avoir des situations tout à fait similaires, surtout dans les centres urbains, comme Québec ou ailleurs. Il y a des endroits où il y a des méthodes, où il y a des choses qui ont été mises sur pied pour aider les gens à trouver un logement par des logiciels d'appariement entre les logements disponibles et les besoins des personnes. Est-ce que c'est quelque chose que vous entrevoyez comme étant une possibilité pour rendre au moins, trouver plus facilement ce qui existe au moins pour ne pas chercher, je dirais, de midi à 14 heures?
On veut commencer à regarder ça, mais il faut faire attention parce qu'il faut qu'on se rende compte à un autre problème dans ce cas-ci avec les logiciels, c'est l'accessibilité de ces logiciels.
Oui, tout à fait.
Actuellement, ce n'est pas très accessible, alors il faut vraiment faire des démarches pour travailler avec des entreprises ou des organismes qui travaillent plus dans le domaine du logement pour essayer de mettre en place des projets, des partenariats ou des choses.
Parce que pour revenir à la question de l'insalubrité qu'on a soulignée tout à l'heure, là, il s'agit tout de même de faire une défense directe des droits de la personne à titre de locataire ou d'occupant ou occupante des lieux. Est-ce que c'est quelque chose où est-ce qu'on peut donner un coup de main à ces personnes-là? Parce qu'il y a des recours à faire, il faut communiquer avec le propriétaire, il faut appeler les services de la ville pour qu'ils constatent l'état des lieux.
Oui. En fait, le projet, au départ, c'est ce qu'il prévoyait. Et d'ailleurs, on faisait des visites à domicile et c'est vraiment ce qu'on voulait faire, puis accompagner les gens dans leur démarche. Parce qu'on l'a constaté, malgré le peu de visites qu'on a réussi à faire parce que la pandémie est arrivée, on l'a constaté assez rapidement qu'on a quand même plusieurs personnes qui vivent vraiment dans des logements insalubres. Et qu'on a voulu aider parce qu'on avait remarqué aussi des non seulement des moisissures, mais des problèmes d'insectes, de vermine. Malheureusement, les gens ont peur. Les gens ne veulent pas interpeller leur propriétaire parce qu'ils ont peur d'avoir des problèmes avec le propriétaire. Fait que c'est triste, là, parce que s'ils nous autorisent pas, on peut pas le faire avec eux, là.
D'accord.
Et on a ça, ce problème-là, qui ont peur du propriétaire. Ils ont peur de déménager aussi et de ne pas trouver autre chose qui va répondre à leurs besoins ou qui vont être capables de le payer. Fait que ça devrait être vraiment des situations difficiles.
Et parce que, d'abord, il s'agit de communiquer avec les autorités municipales là, qui vont émettre des avis sur l'état des lieux, ainsi de suite. Mais je comprends la crainte de personnes vulnérables qui s'accrochent à ce qu'ils ont ou ce qu'elles ont, bien que ce soit vraiment pas satisfaisant, parce qu'ils se disent « si j'ai pas ça, j'ai rien ». Alors,
c'est ça qui est la racine de la peur. On a vu un logement où la dame, là, il y avait vraiment de la vermine, là, puis c'est même pas bon pour sa santé, puis elle n'a jamais voulu qu'on interpelle le propriétaire. Là.
D'accord.
Ni l'office municipal, ni les autorités de la ville... De peur, justement, de peur.
Oui, de peur. Il y
avait une autre dame là, qui, son chauffage ne marchait pas à moitié. Donc, elle se mettait des petites chaufferettes électriques là, dans deux, trois endroits. Ben, ça, c'est dangereux, ça.
Oui, tout à fait.
C'est dangereux pour le feu et c'est dangereux pour elle aussi.
Exact. Alors, ces situations-là sont. C'est des drames, mais on peut penser que ça, c'est quelques visites que vous avez faites. Mais il y a beaucoup d'autres endroits que vous n'avez pas visités. Ou peut-être bien des situations semblables on court. Pour ce qui est de l'adaptation, on parlait d'adapter le logement aux besoins de la personne qui a un handicap visuel. Ça va prendre quelle forme, cette adaptation-là? Est-ce qu'il peut y avoir des choses qui sont assez simples et pas si coûteuses?
Oui, en fait, on va parler plus de, pas seulement dans le logement, mais l'environnement.
Mm-hmm, d'accord.
Par exemple, qu'il y ait des rampes pour les escaliers, mm-hmm. Qu'il y ait des comment on appelle ça, donc des, pas des tuiles avertissantes, là, mais des bandeaux avertissants,
mm-hmm. Oui.
Qui indiquent qu'on est rendu à la dernière marche,
exact.
Un bon éclairage, être capable de se rendre pour aller jeter ses déchets dans le
conteneur,
oui. Grand conteneur. Souvent, c'est l'autre bord d'un stationnement où tu ne peux pas prendre,
mm-hmm.
pour une personne qui ne voit pas souvent là.
D'accord.
C'est plus de ce type-là, tu sais, s'assurer qu'il n'y a rien qui est dangereux dans l'espace commun, des choses comme ça.
Parce que ce n'est pas nécessairement des adaptations qui sont très coûteuses, ça, pour le propriétaire.
Non.
On ne parle pas de défoncer un mur puis de faire poser ceci ou cela qui est hors de l'ordinaire, parce que c'est une adaptation qui est pertinente pas seulement pour une personne qui a un handicap visuel, mais ça peut être une adaptation qui est tout à fait souhaitable pour quelqu'un qui a des challenges de mobilité, par exemple. Alors, c'est pas uniquement...
Les personnes,
oui,
qui sont plus âgées.
Plus âgées, tout à fait. Et de ce côté-là, donc, il semble y avoir... est-ce que c'est encore une fois une question de crainte de s'adresser aux propriétaires pour demander des choses comme celle-là? Parce que sinon, ça va résulter en des accidents.
Pour les gens qui habitent les immeubles, oui, actuellement, c'est carrément ça. Les gens ne veulent pas qu'on interpelle leur propriétaire.
OK.
Alors ce qui va faire travailler beaucoup plus avec l'Office municipal de l'habitation.
Mm-hmm. D'accord. Et est-ce que est-ce que l'étude que vous avez faite, qui l'a commandée? Cet argent-là vient d'où?
Ça vient de la Direction régionale de la santé publique du Centre-Sud de Montréal.
D'accord.
Qui vient on appelle ça la mesure 17, qui est la mesure favorable à la santé.
D'accord.
Alors, eux font des appels de projets chaque année, mm-hmm. pour des choses qui favorisent la santé.
D'accord.
Alors,
donc, on peut penser
qu'avec
votre étude à la main, il pourrait avoir l'autorité de demander ou d'influer sur une volonté politique, là. Ils vous ont pas demandé ça pour le mettre dans le tiroir, tout de même.
Non, j'espère bien.
Oui, voilà.
Mais de toute façon, si eux le mettent dans le tiroir, on va lui rappeler que ça existe.
Oui, vous le savez que ça existe, ces conclusions-là. Alors, ça va être révélé ou ça va être... vous allez publier les résultats de l'étude qui s'est quand même déroulée sur une période de quoi? Un an et demi, à peu près?
Un petit peu plus que ça, à cause de la pandémie, on a pris un petit peu de retard. Mm-hmm. Là.
Mais vous aviez démarré
en novembre 2019.
Novembre 2018. Oh là là, OK. Alors, ça fait déjà pas mal.
Oui, on avait démarré en novembre 2018. Ben, le temps de préparer la grille, mm-hmm. de mettre les outils en place pour faire comptabiliser nos données, tout ça. Mm-hmm. Et on est arrivé dans la pandémie. Il a fallu changer un petit peu notre fusée d'épaule. Donc, c'est ça. On arrive en mars 2021 quand on l'a fini.
Et c'est un échantillon qui regroupe combien de personnes?
Une centaine de personnes.
Une centaine de personnes qui habitent toutes dans la région de Montréal.
Oui,
c'est ça.
Oui.
Donc, c'est assez significatif. Et cette étude, cette recherche-là va être dévoilée par un webinaire qui va avoir lieu demain.
Oui, demain midi, un webinaire.
OK, ça, c'est demain.
Et par la suite, mm-hmm. oui,
Comment quelqu'un peut demain midi, est-ce que moi je peux aller me brancher ou quelqu'un peut aller se brancher puis voir le dévoilement des résultats ou apprendre qu'est-ce que cette étude a à dire? Est-ce que je peux, est-ce que nos auditeurs peuvent communiquer avec vous, trouver
oui,
une adresse?
Absolument. L'adresse est sur notre site internet. On a publié d'ailleurs. Encore aujourd'hui, ce matin, l'invitation pour les gens à se brancher.
Mm-hmm.
Si les gens ne peuvent pas se brancher demain parce qu'ils sont occupés ou peu importe, tout de suite après le webinaire, les résultats de l'étude vont être publiés sur notre site ainsi que l'enregistrement du webinaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que demain, il y a deux autres interlocuteurs qui vont être au webinaire,
mm-hmm.
C'est-à-dire l'organisme qui s'appelle Execo.
Oui.
Qui vont nous parler du logement accessible.
D'accord.
Et d'une politique en accessibilité universelle pour le logement.
Mm-hmm.
Et la Fondation des aveugles du Québec qui va nous parler de son... de ses différents immeubles et tout ça, de son programme d'habitation.
Formidable. Alors ça, ça va, on l'espère, être un coup d'envoi, un dialogue et des amorces de solutions. Bien, Madame Dussault, je vous remercie beaucoup. On va se brancher. On va se brancher demain midi. On va écouter tout ça. Et il ne faut pas que ce soit uniquement des gens qui savent qu'il y a un problème, qui l'écoutent, mais que ce soit aussi des gens qui peuvent aider avec la résolution du problème. Bien, je vous remercie beaucoup.
Oui.
À bientôt.
Avec plaisir. Bonne journée.